donné, parce qu'ici, on est dans un patrimoine en grand danger. Tous les poiriers que vous voyez là, c'est que des curés. Donc ça, ça n'a aucun... Ça n'a rien de rarissime. C'est même la dernière chose qui survit par chez nous. Il reste quand même des pommiers rouges de Castellane. Là, il y en a un qui en a pas mal. Et on va aller en voir un peu près. Mais je voulais vous faire voir les prévergers de Castellane. Alors, ces prévergers de Castellane, ils sont répartis dans la plaine de la Lagne, dans le bassin de la Lagne. On a un représentant ici. Voilà. La plaine des Listes, donc, qui est au bord du Verdon, qui a été conquise au XVIIe et au XVIIIe siècle sur le lit du Verdon. Donc, ces prévergers de fond de vallée, ils datent que du XVIIIe siècle. C'est à partir du XVIIIe siècle que par ici, on se spécialise dans la production de pommes et de poires, avec au XIXe siècle, en tout cas peut-être avant, mais on n'en sait rien, au XIXe, l'exportation des pommes sur la Côte d'Azur à contre-saison. Ici à Castellane, la Javise avait des sarteaux. Ici à Castellane, on cultivait principalement ce qu'on appelle ici la garus, c'est la Jean-Gaillard, qu'on appelle aussi ici la Jean-Gaillard. La Jean-Gaillard d'hiver, qui était conservée dans les caves, à la Baume par exemple, à la Palue, et conservée dans les caves des fermes. Et au printemps, il y en avait une moitié de pourrie, et la moitié qui n'était pas pourrie, on la descendait à Nice et on la vendait à prix d'or au mois de mai. Parce qu'évidemment, c'est une pomme ultra dure, ultra épaisse, ultra qui ne craint pas les chocs, et on la descendait en tombereau. Hein. Donc.
Daiso.
Il devait la protéger un peu.
Ouais, oui, il mettait peut-être un peu de paille.
Il mettait de la paille. Là,
autour du tombereau. Mais.
Il faisait pas tout ça au fond du tombereau.
Voilà, par exemple, à La Baume, en 1928, les gens de La Baume, en 1928, à 1200 mètres, là, au-dessus, ils en ont vendu 100 tonnes. 100 tonnes de garus. Il n'y avait pas la route, hein. Donc descendu à bas. Pour 100 tonnes de pommes de garus descendues à dos de mule, puisqu'il n'y avait pas encore la route à cette époque-là. Donc c'est pour donner un ordre d'idée de quelque chose que je connais. Pour ce qui est des poires, la particularité des zones non irrigables, vous voyez ici là. On a juste la transition zone irrigable, zone non irrigable. Dans les zones non irrigables, vignes, amandiers, et puis des grosses poires asséchées. C'est ce qu'on appelle ici les farinières. Donc les farinières, c'est des poiriers gigantesques. Si on allait à la Palue, on en verrait, il faut se mettre à deux ou trois pour faire le tour, qui produisent des tonnes de poires, et on les faisait sécher, au soleil coupé en deux. C'est le surnom des habitants de la Palue. On les appelle les mange-partiers, c'est-à-dire les mangeurs de poires séchées. C'est aussi le surnom des habitants de Taloire, les mange-baculas. Alors il y a deux noms différents, pourquoi? Parce qu'ici on les faisait sécher au soleil, à Taloire on les faisait sécher dans le four à pain du village. D'où un nom différent. Mais ces poires-là, elles n'étaient pas vendues, contrairement aux pistoles, aux pardigones, quoi, aux prunes, mais elles étaient consommées l'hiver. En guise de soupe, c'est-à-dire en plat unique. Quand on mangeait la soupe de poire, il n'y avait que la soupe de poire, avec du pain dedans. Voilà. C'était un plat unique. Voilà. Donc un plat de famine, on peut dire, mais en tout cas, ça, c'était les poires pas d'exportation. Hein. Voilà. Ici, on est déjà dans des terres plus riches. Donc, je disais, gagner sur le lit du Verdon, gagner sur les assèchements des marécages, puisqu'ici, on est sur un ancien marais. Et il y a donc une vingtaine d'années, on avait essayé de faire un collectage avec un ingénieur du conservatoire de Porquerolles, monsieur Roger, donc je ne dis pas de bêtises. On avait fait un fichier avec mon oncle Jean-Pierre et moi-même. On avait pris des greffons à la Palue, à la Baume et ici. Et d'après ce que j'avais su, ils avaient été greffés chez Jouve Racamon à Saint-André-Hol, dans les Bouches-du-Rhône. quand je me suis intéressé il y a peut-être 15 ans à savoir ce qu'étaient devenus ces prélèvements, j'ai jamais pu retrouver la trace. Donc j'avais contacté Marie-France Tarbourièche pour savoir si ça avait été planté à Charence, à Gap. Et Marie-France Tarbourièche n'avait jamais rien retrouvé. Donc voilà, je peux vous dire à peu près ce qu'on avait collecté ici à la Palu, la Baume et le plan de la Palu il y a 20 ans. Et puis on ira voir, j'ai vu qu'il y a les pommes rouges d'hiver là. La rouge de Castellane, alors est-ce que c'est la rouge de la Jalie? Je l'ignore. Puisqu'évidemment, les spécialistes pourront nous en parler après. Je ne vais pas monopoliser plus longtemps la parole. Mais si on est là, c'est parce que vous allez voir, on va faire le tour de la grange. Il y a des figuiers, des vignes. Bon, voilà, Castellane est à la jonction de cette influence alpine et provençale. Là, par exemple, la maison Reboul, la ferme qui est adossée à la colline là, tout le deuxième étage de la maison contient, à ma connaissance, le dernier séchoir intact de pistoles. Là, il y a un séchoir à pistoles intact. La dernière habitante de cette maison, Antoinette Reboul, est morte en 1980 par là. Elle était née en 1880 par là, puisqu'elle est morte là, il y a presque 100 ans. Et dans cette maison, rien n'a changé depuis 150 ans. Donc il y a tout un étage de séchoirs à pistoles avec les puissons. Les pistoles. Les pistoles, ce sont des prunes perdigones, la perdrigone violette, qui étaient séchées de plusieurs façons. Donc la façon la plus noble, c'était la pistole. Donc on ramassait ces prunes fin août. On les épluchait. Alors là, les gens de Sénès, ils sont encore plus spécialistes que nous. Ici, ça a disparu à la guerre de 14. Après 14, plus de pistoles. Donc on les épluchait, on les enfilait sur des baguettes d'osier que l'on plantait dans des buissons, c'est-à-dire des bâtons autour desquels on avait attaché une gerbe de paille de seigle. Et ça faisait une espèce de coussin, si vous voulez. On plantait ces brochettes dans ce bâton qu'on accrochait, parce qu'il y avait un crochet au bout, qu'on accrochait à des barres dans le grenier. Ensuite, au bout de quelques temps, on désenfilait les prunes, on en profitait pour enlever le noyau, les aplatir.
C'est un pruneau,
ah ben c'est un pruneau. Sauf que nous, on appelle ça des pistoles.
Il
n'y a pas de noyau.
Il n'y a pas de peau et pas de noyau.
Donc vous imaginez la quantité de travail phénoménale qu'il fallait faire pour obtenir ça. Et on l'aplatissait.
Ça faisait comme une pièce d'or.
Et on l'aplatissait et il finissait le séchage sur des clés en osier, parce qu'ici, des roseaux, il y en a des cannes, il n'y en a pas trop. Il pouvait y avoir des clés de cannes, mais surtout des clés d'osier.
C'est des clés d'osier,
non ? Non, rectangulaires. Et ensuite, deuxième, il y avait trois catégories. On faisait la pistole, après on a fait le pruneau fleuri jusqu'à la guerre de 39. Donc là, le pruneau fleuri, on remplissait un panier spécial qu'on appelle ici Luchaniste, qui était à claire-voie. C'était un panier pas fini. On n'avait pas tressé l'osier dedans. Un panier rond. On remplissait de prunes. On le trempait 11 secondes dans de l'eau bouillante avec 11 grammes d'alun par litre. Et ça empêchait la pourriture du fruit. Et on secouait le fruit soit dans un tarare, soit en balançant le panier très vite pour que le fruit se recouvre d'une pellicule blanche qu'on appelait la fleur. Ces pruneaux étaient ensuite séchés sur une canisse en osier, toujours pareil. Et puis il y avait une troisième catégorie qu'on appelait l'oubakoum, qui était séchée naturellement. C'était la troisième catégorie, c'était des prunes séchées comme ça sur des canisses.
Et cartées, quoi ? Ouvertes ?
Non.
Sans le noyau ?
Non.
Entières ?
Avec le noyau ?
Il n'y a pas d'écartées ici ?
Non. Donc ça, c'était pour les prunes.
Les écartés, vous
alors le plan de la Palu au XVIIe et XVIIIe siècle est un immense verger de pruniers. C'est pour ça que je vous dis, le patrimoine pommier et poirier est venu après, hein, quand les pistoles ont commencé à diminuer et à prendre de l'ampleur dans la vallée de l'Asse. Il y a eu...